Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Les 22h à Paris et à La Haye, 21h en temps universel.
Martin Guèze.
Et à la une, Benjamin Netanyahou qui menace d'une nouvelle guerre intensive en cas de violation de la trêve entre Israël et le Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu mis en place hier est déjà en danger. Le Premier ministre israélien qui pourrait bénéficier d'une immunité en France. Et ce malgré le mandat d'arrêt de la CPI, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, rappelle la France à l'ordre. La France, où le président du Nigeria, Bola Tinubu, a entamé ce jeudi une visite d'État de 3 jours. Au programme aujourd'hui, des accords économiques et un soutien politique d'Emmanuel Macron à son homologue nigérian. En Espagne, les pluies diluviennes, qui ont fait près de 230 morts dans la région de Valence le mois dernier, ont laissé place à des torrents de boue qui obstruent les égouts de l'agglomération. Enfin, soirée de football et de Ligue Europa, avant de retrouver Radio Foot International dans 10 minutes sur notre antenne.
RFI.
Au Proche-Orient, l'armée libanaise accuse Israël d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur hier. L'armée israélienne qui annonce avoir mené une première frappe aérienne contre une installation du Hezbollah dans le sud du Liban. La trêve qui apparaît comme encore très fragile, l'armée de l'État hébreu qui a par ailleurs imposé un couvre-feu jusqu'à demain matin dans le sud du Liban et qui dit avoir ouvert le feu contre des suspects ne respectant pas les conditions de la trêve. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui menace à nouveau le Liban d'une guerre intensive en cas de violation du cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou qui pourrait bénéficier d'une immunité en France, lui qui est pourtant poursuivi pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Au lendemain de cette annonce, le chef de la diplomatie européenne rappelle la France à ses devoirs. Josep Borrell, qui demande aux pays signataires du statut de Rome de respecter les décisions de la CPI, et ce même si Israël dénonce une décision antisémite.
Je veux lancer un appel à tous les membres de la communauté internationale et en particulier aux membres de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas affaiblir la Cour pénale internationale. C'est le seul moyen d'obtenir une justice mondiale. C'est le seul moyen de mettre en œuvre l'obligation de rendre des comptes. L'accusation d'antisémitisme est une fois de plus vide de sens. Cessez de vous cacher derrière l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Il s'agit de rechercher la justice sur la scène mondiale.
For justice at the global stage.
Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. En France, début ce jeudi de la visite d'État du président du Nigeria, Bola Tinubu, la première d'un chef d'État nigérian depuis l'an 2000. Première journée consacrée aux promesses d'investissement des entreprises françaises, que ce soit dans l'énergie, les métaux rares, le numérique ou dans la défense. Le président français Emmanuel Macron, qui a également appuyé politiquement son homologue Bola Tinubu, félicitant certaines de ses mesures au niveau national, comme la levée des subventions sur l'essence, une mesure pourtant très impopulaire au Nigeria. Emmanuel Macron, qui l'a également soutenu au plan international, alors que le Nigeria souhaite une représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Je voudrais dire enfin, Monsieur le Président, que les ambitions que vous affichez pour votre pays, nous les soutenons, nous avons confiance en vous, et je veux saluer aussi votre volonté de les renforcer par une implication plus grande du Nigeria à l'échelle régionale et mondiale. Votre volonté d'être un acteur de sécurité et de défense structurant dans toute la région de la CDAO est une ambition décisive que la France veut accompagner. Et votre volonté aussi d'être un acteur clé au niveau de la gouvernance mondiale est nécessaire pour nous tous. Qu'il s'agisse de la mise en œuvre du droit international humanitaire, qu'il s'agisse du changement climatique, de la santé mondiale ou de la protection des océans, je veux ici saluer votre leadership et notre volonté de travailler ensemble. La France, et je m'y engage devant vous, fera quant à elle tout son possible pour favoriser une meilleure inclusion du Nigeria dans les différentes enceintes de la gouvernance mondiale.
Des propos recueillis par Lisa Fabian du service Afrique de RFI. Emmanuel Macron, qui a par ailleurs adressé un courrier ce jeudi à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, employant pour la première fois le mot « massacre » pour désigner la tuerie du camp de Tiaroy. Et ce, à 3 jours des commémorations des 80 ans du massacre. Informations sur lesquelles nous reviendrons à 22h30 temps universel pour la dernière édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. RFI 22h04 à Madrid, en Espagne. Un mois après les terribles inondations de Valence qui ont fait près de 230 morts, la pluie qui a laissé derrière elle des torrents de boue qui ont complètement bouché les égouts de la ville. Reportage dans l'agglomération de Valence de Pauline Glaise.
Pascual Marin et sa fille transvasent de la boue de leur seau vers un sac à décombres, une boue qui leur donne du fil à retordre.
Nous avons une cour qui a un caniveau, mais il n'absorbe plus rien. Il est censé être relié au réseau général, mais il est bouché. Alors quand mes parents, qui sont à l'étage, tirent la chasse, il y a tout qui ressort. Ils ont un petit lavabo, et là, on dirait que ça marche. Mais en fait, ça s'accumule. On ne peut pas nettoyer correctement, parce que si on jette de l'eau, il ne l'évacue pas et tout ressort.
Et ce n'est pas un cas unique, bien que la situation s'améliore selon Juan José Ortiz, un professionnel venu de Séville. Son rôle, faire du repérage.
Nous indiquons là où c'est sale, là où c'est propre et ce qui est urgent, ainsi que là où il faut agir. Et en fonction de ça, ils viennent avec des camions cureurs d'égout.
Dans une autre ville, Fernando Monti s'affaire sur une bouche d'égout et un trou dans la dalle d'un immeuble.
Il a fallu forer le sol parce qu'en plus de la boue, il y avait des chiffons et c'était rempli.
Nettoyer les égouts est essentiel. Si l'eau ne peut pas s'écouler, de fortes pluies pourraient provoquer de nouvelles inondations. Pauline Glaise, Valence, RFI.
On quitte l'Espagne, direction le Honduras, à présent, avec ce procès d'ampleur, celui de l'affaire Berta Cáceres, du nom de cette militante écologiste, assassinée il y a plus de 8 ans, la Cour suprême du pays qui confirme aujourd'hui les sentences prononcées contre les 7 accusés. Berta Cáceres, qui s'opposait à la construction d'un barrage hydroélectrique sur le territoire du peuple autochtone Lanka, auquel elle appartenait. Explication, Christophe Pagé.
Lorsqu'elle a été assassinée le 2 mars 2016, cela faisait des années que Berta Cáceres recevait des menaces. Et pourtant, malgré la demande de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, elle ne bénéficiait d'aucune protection de la part de l'État hondurien. Sous la pression, affirme sa famille, de ceux qui défendent le secteur minier et les entreprises hydroélectriques. Et si, ce mardi, la Cour suprême a confirmé les sentences prononcées contre 7 des meurtriers de Berta Cáceres, c'est en dépit de pressions toujours bien présentes, explique sa fille Berta Zuniga.
Ces groupes économiques qui font partie des 10 familles les plus riches du Honduras continuent d'intervenir et de faire obstacle. Nous avons fait face à d'importantes campagnes de communication qui ont engendré des manquements dans l'enquête et qui tentent de délégitimer notre demande de justice. Il y a aussi eu des actes d'intimidation de personnes parties prenantes dans l'enquête, non seulement contre des membres du parquet, mais aussi contre des personnes très importantes, pour ce qui est par exemple des enregistrements téléphoniques qui constituent la base de l'accusation contre les assassins de ma mère.
Berta Zuniga regrette ainsi que la Cour ait décidé de modifier les circonstances aggravantes retenues contre un des condamnés, qui pourrait voir sa peine réduite. David Castillo était le directeur exécutif de l'entreprise DESA qui devait construire le barrage. Selon l'accusation, c'est lui qui a organisé le meurtre.
Christophe Paget du service international de RFI. On termine par du sport, avec d'abord du tennis. Après l'Italien Yannick Sinner chez les hommes, c'est au tour de la Polonaise Iga Świątek d'être sanctionnée pour dopage à cause d'un contrôle positif à une substance interdite. Voilà qui explique donc l'absence des cours ces dernières semaines de la numéro 2 mondiale, Sofiane Amazian.
Son absence lors de la tournée asiatique en octobre dernier pouvait interroger. Forfait pour deux WTA 1000 à Pékin et Wuhan, Iga Świątek, actuellement deuxième joueuse mondiale et lauréate de 5 tournois du Grand Chelem, ne pouvait tout simplement pas y participer, suspendue pour dopage pendant un mois. En cause, un contrôle positif à une substance interdite, la triméthazidine, dans un échantillon prélevé hors compétition en août 2024. Des traces de ce produit illicite ont été retrouvées dans des médicaments que la joueuse prenait pour soulager des problèmes de sommeil. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, l'ITIA, estimant que la violation du règlement ne relève pas d'une faute ni d'une négligence significative, n'a infligé qu'un mois de suspension, sanction acceptée par la joueuse à qui il ne reste que 8 jours d'attente avant de pouvoir retrouver la compétition. Cette annonce fait écho à l'affaire dans laquelle est englué Yannick Sinner, numéro 1 mondial, après un contrôle positif en mars dernier et blanchi par l'ITIA. L'Italien est tout de même sous la menace d'une suspension lourde depuis que l'Agence mondiale antidopage a fait appel de cette décision, l'AMA, qui pour l'instant n'est pas intervenue concernant Iga Świątek.
Enfin en football, 5e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa, c'est la 2e Coupe d'Europe après la Ligue des Champions. Et nouvelle victoire pour l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 4-1 en Azerbaïdjan face à Karabakh. Lyon qui est pour l'instant 8e de la phase de groupe, une place qu'il qualifierait directement pour les 8e de finale. Pas de vainqueur ce soir dans le choc entre Anderlecht et Porto, de partout. Et puis en ce moment, très grosse affiche entre Tottenham et l'AS Rome, les Londoniens qui sont devant 2-1 à la 50e minute, malgré un but de l'Ivoirien Evan Dika pour les Romains. Puis Manchester United qui était mené sur sa pelouse par Bodo Glimt. Les Mancuniens qui viennent d'égaliser à deux partout. Ça ne va pas du tout pour les Niçois en revanche. Menés 3-0 sur leur pelouse par les Écossais des Glasgow Rangers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Et puis du foot toujours dans quelques instants avec Olivier Pron et toute sa bande pour Radio Foot International. Excellente soirée à l'écoute de RFI.